quand ça souffle, ça souffle. Au plan d'Aou, il y a tellement de vent que certains enjoliveurs semblent des animaux marins qui ont été soufflés jusque-là.
Rien n'est permis, tout est possible. Une rétrospective de la résidence de Jean-Luc Brisson au paradis.
Alors là, tu vois, avant on pouvait passer tout droit et aller jusqu'à l'endroit où je fais la sieste, et maintenant c'est bouché. Tu vois les nouvelles habitations là qui ont remplacé les bars qui ont été détruites. Et ça fait comme une petite île toute neuve, toute propre, toute aménagée, au milieu du chantier et au milieu du quartier tel qu'il était quand je suis arrivé ici. Hein. Parce que là, c'est allé très très vite.
Le paradis. Le paradis est un jardin raté. Le paradis est le prototype et le modèle du jardin raté. Ce jardin primordial ne bougeait pas. Muni de puissants retardateurs de croissance, il était éternellement en fleurs et en fruits, l'aboutissement perpétuel. Sans espoir de la moindre disparition, de la moindre apparition, car toute modification aurait constitué un repère temporel, donc un accroc à l'éternité. On ne peut pas en vouloir aux deux ancêtres de s'être tournés vers la seule plante susceptible de se développer déraisonnablement, la connaissance invasive. Ainsi, les premiers êtres humains sont devenus des jardiniers, lassés par l'immobilisme béat. Ils découvrent l'instant de bonheur, véritable paradis terrestre, l'instant qui se prépare et se fabrique, l'instant qui réjouit par avance et que l'on peut se remémorer longtemps afin d'en produire de nouveau. La discontinuité qui suppose la disparition est plus acceptable que la continuité monotone dans laquelle on se désespère. Le jardin est un champ expérimental d'instants de bonheur. Le jardin se conçoit plus comme un calendrier que comme un plan, parce qu'il est une suite d'instants déterminés par le temps qu'il fait pendant du temps qui passe. Le cycle des saisons permet d'assister au changement de forme de chacune et de toutes les plantes. Germination, pousse, floraison, fructification, mûrissement, fanaison, putréfaction, dormance. Et comme ce cycle ne se reproduit jamais de la même manière, les instants ne se répètent jamais, mais parfois se ressemblent. Ces changements influencent notre séjour dans un jardin en animant notre âme directement. Le plan d'Aou est un paradis. C'est-à-dire un jardin raté, le premier d'entre tous. Le jardin raté a une très grande valeur imaginaire, expérimentale ou écologique. Ce qu'il apporte à la pensée, à la rêverie, est incommensurable.
Je me suis mis à faire des siestes dans ce quartier. Je me suis endormi au pied d'un mât parasol. C'était pas du tout quelque chose de volontaire, de recherché, d'artistique. C'était quelque chose de, je dirais, physiologique pratiquement, quoi. J'aime faire la sieste et je me suis mis à faire la sieste au bord de la falaise qui domine au-dessus de la Bricarde, de la cité de la Bricarde. Et à mon réveil, il y avait quelqu'un. Il y avait quelqu'un qui était assis sur une table à côté et qui avait envie de parler, envie de savoir pourquoi j'étais là. Et j'ai remarqué que pratiquement à chaque sieste, quelqu'un était là à mon réveil. Et du coup, les gens qui apparaissaient me semblaient sortis d'un rêve.
Par exemple, le parasol.
Moi, je suis un fils de paysan.
Ouais.
Il y a des choses chez nous, ça existe ici, ça n'existe pas.
Ah oui, non, mais ça, c'est...
Ni mange pas pareil dans le planat, là. Chacun, comme on est là-bas, à l'Afrique du Nord. Ni mange pas beaucoup de le riz.
Ouais.
Le chinois, le noir, ils mangent beaucoup. Ils mangent les blés, ils mangent la farine, l'orge, les maïs. Chaque côté.
Bien sûr.
Chaque côté, c'est pas pareil.
Bien sûr.
Ouais. Toi, tu connais, toi. Tu vois là la main. Moi, j'ai parlé avec des gens comme ça. Ouais.
Mais il y a des plantes qui se retrouvent quand même. Non?
Comme les figues, il y en a. Si, à chez nous, il y en a un bagage, les figues. Uh-huh. Les jeunes là-bas, ils vivent beaucoup. Uh-huh. Ouais. Il y a des choses aussi qui existaient chez nous. Il m'a dit, il en a parlé comme ça. À la Turquie. Turque.
D'accord. Oui, mais c'est le tout le pourtour méditerranéen. Hein. C'est
voilà. Allez, au revoir.
Allez, à bientôt.
Mais la contrepartie de cette confiance, c'est que moi, je ne sais pas bien ce que j'ai rêvé moi-même et ce qui est de la réalité. C'est-à-dire que c'est vraiment inexploitable pour dire ce que sont, ce que pensent les gens du plan Naou. Donc je ne suis définitivement pas dans une enquête. Je suis dans une histoire qui me passionne, qui me touche et dont j'ai inventé des parties à partir de bribes très, très réelles.
Tout est encore possible. Ici, comme au paradis, rien n'est permis. Tout est possible. C'est le lot de bien des jardins.
Oui, alors le paradis, j'ai pas arrêté de dire que ce quartier était un paradis. Et là, le paradis, ça me nuise. Il se réduit du point de vue spatial. C'est une espèce de peau de chagrin parce que l'état dans lequel j'ai trouvé ce quartier en arrivant, c'est-à-dire à l'abandon, faisait qu'il m'a évoqué le paradis.
Paradis parce que perdu.
Parce que abandonné, effectivement. Et du coup, la nature, comme on dit, a repris ses droits. Je ne sais pas quels sont les droits de la nature, mais en tout cas, elle était très présente et elle se glissait dans toutes les anfractuosités, dans tous les défauts, tout ce qu'on n'a pas réparé. Tout ce qu'on n'a pas entretenu, finalement, ce sont des brèches qui ont permis à la nature de s'installer, à l'eau de stagner et de former des flaques. Et c'est vrai que cette espèce d'apparition insistante de courage qu'avait cette espèce de nature pour sortir, c'est une pression incroyable. Quand on voit ça, on a une idée de ce que les anciens appelaient la fusis, hein, la poussée, c'est la fusée, hein, d'accord, c'est ça la nature.
Un quartier comblé est un quartier sans flaque, où tous les trous de la voirie ont été rebouchés. Ici, l'entretien laisse à désirer, ou plutôt laisse de la place au désir. Chaque excavation est une attente de la pluie. Il a plu hier et aujourd'hui. L'eau reflète le ciel. L'averse du matin ou de la veille est encore visible. La flaque fait voir en arrière. Il y a de l'hier dans l'aujourd'hui. La flaque est un rétroviseur du temps. Le ciel est visible en regardant par terre et non pas en levant la tête. Les poules de ces nids de poules ne pondent pas d'œufs. Elles pondèrent parfois la vitesse des véhicules. Les grandes pointes comme les autres doivent ralentir pour ne pas subir trop durement les chaos. Le manque d'entretien de la voirie d'un quartier lui procure, quand il a plu, 1000 petits miroirs pour se refaire une beauté. Qui a plus plaira, sauf s'il est indifférent au regard des autres.
Je suis en train de essayer de m'approprier ce qui se passe derrière là, les cris. Donc, la route là-bas qui descend, la grande route où il y a des voitures, les collines, les montagnes au loin, puis la mer. C'est génial, j'ai l'eau qui vient directement. C'est magnifique. Je n'ai même pas besoin d'aller la chercher, l'eau. Elle vient à moi.
Ah oui, non, le lavis, c'est du lavis naturel.
Ah, je trouve très bien de la couleur, finalement. Hein ?
Bon, temps gris sur le paradis. Là, il pleut, comme tu peux l'entendre, peut-être même. Et on entend les gouttes de pluie. Nous sommes venus dessiner au paradis. J'avais envie d'inviter des promeneurs au paradis. Et bon, je pense que c'est un autre aspect du paradis. C'est un endroit où on peut être bien, se poser, tomber amoureux de ce lieu. Et pour moi, une des manières de tomber amoureux d'un lieu, c'est de le dessiner. En fait, on décide ce qui nous touche, on dessine ce qui nous touche, et donc on touche ce que l'on veut dessiner. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et donc c'est cette proposition qu'on a faite ce matin à des gens très variés qui ont été invités par le FRAC, la Gare Franche, et puis se joignent à nous des habitants du quartier, mais qui ne sont pas trop descendus aujourd'hui parce qu'ils sont tranquilles chez eux, il pleut. Donc,
donc on va commencer la dictée. Vous aurez 20 secondes pour faire apparaître ce... Si par exemple, je sais pas, je dis une chaufferie, vous aurez 20 secondes pour faire apparaître une chaufferie, mais il ne s'agit pas d'un pictogramme de chaufferie, c'est pas la chaufferie en général, c'est celle qu'on a pu voir ce matin. J'utilise chaufferie parce que je ne vais pas le dire, sinon voilà, sinon c'est pas drôle. Je pense que ce qui est intéressant, c'est ce processus qui consiste à d'abord se faire apparaître l'image dans la tête, l'image qui correspond au mot, la chose qui correspond au mot, son contexte, pour être bien sûr que ce ne soit pas un pictogramme, et ensuite essayer de poser, de coucher cette image qu'on a dans la tête sur le papier. Comme si on avait, à l'observer comme un paysage, quoi. Voilà. C'est ça le principe de la dictée. Une grue. Une grue.
Vas-y, dis-le au micro si tu oses.
Non, ça va.
Un pain parasol.
Tu fais trop loin bien du prof. Et que c'est un cauchemar.
Un pain parasol. Finalement,
si on y réfléchit bien, et c'est quelqu'un de célèbre qui le disait, c'était Churchill, finalement, on dessine toujours de mémoire. C'est-à-dire que même quand on est devant le paysage, eh bien, on le regarde, et puis ensuite, on regarde le support. Et donc, au moment précis où on dessine, on n'est pas en train de regarder. Et c'est la mémoire qui sert de véhicule. Et puis, il y a un autre intérêt dans cet exercice, c'est que dessiner, c'est souvent faire des dessins ratés. C'est-à-dire qu'on est, c'est très, très, très rare qu'on soit satisfait d'un dessin, je trouve. Parce que quand on peut le comparer au motif, il y a toujours quelque chose qu'on a oublié, qui n'est pas comme on voudrait. Et du coup, cette déformation, elle est toujours décevante. Par exemple, moi, je vois ce dessin, ce lavis, et je le trouve très intéressant, parce que je ne suis pas perturbé par ce qui est devant et qui n'est pas tout à fait pareil. Mais en même temps, ça m'évoque autant le lieu où on était, la bricarde en dessous, et je peux m'y transporter. Ça me représente, ça me présente à nouveau, donc ça me représente la bricarde. Et je suis très content de pouvoir, loin de la bricarde, voir apparaître la bricarde. Et puis ça fait référence aussi à une interrogation qu'avaient les philosophes antiques qui se demandaient pourquoi on a une lumière à l'intérieur, même si on ferme les yeux, on continue d'avoir une lumière et notre mémoire éclaire les paysages, les choses, de la même manière que la lumière éclaire le monde. Et ils se demandaient comment ça pouvait se faire. Ils se demandaient comment le cheval pouvait rentrer dans l'œil. Ils se demandaient comment la montagne, encore plus, pouvait rentrer dans l'œil. Eh bien, maintenant que l'optique géométrique est construite, qu'on sait physiologiquement, géométriquement, comment on voit, je trouve que cette réflexion, elle est toujours d'actualité et elle peut nous aider à se mettre au dessin. Parce que c'est vraiment de ça dont il est question, c'est comment le paysage qui est en face de nous, comment ce qui est en face de nous rentre dans notre œil, nous pénètre, est en nous après. Voilà.
Un dessin est toujours raté. Un dessin est presque toujours raté. Surtout quand on vient de le finir. Pendant le temps où il est toujours possible de comparer immédiatement le dessin au motif. Comme un jardinier dérangé par la nuit, par une intempérie ou une autre occupation qui l'appelle, le dessinateur est déçu. Il doit toujours s'arrêter trop tôt avant d'avoir saisi l'essentiel. Il lui semble, à raison plus qu'à tort, que poursuivre les tracés sur la feuille n'améliorerait rien, au contraire. Ce sera pour la prochaine fois, et il ne faudra pas rater l'instant propice à chaque geste. Un dessin peut, et même doit, se recommencer sans cesse. Le dessin et le jardinage ont cela en commun. Tant que dessiner signifiera de près ou de loin faire une œuvre d'art, le dessin sera décevant et ne servira qu'à bien peu d'entre nous. Les erreurs que le dessinateur constate sont peut-être, à la manière de lapsus, l'expression de désir que la main fait apparaître avec une intelligence dont l'intellect peinait à prendre conscience. Là, c'est trop grand, trop mince, c'est moins penché ou pas assez ouvert. Tels sont les constats qui pourraient bien devenir des transformations souhaitables ou souhaitées du paysage que l'on représente.
Un jour, les pins parasols sont des pins parapluies.
Les maladresses peuvent nous servir à déceler ce qu'on voudrait voir changer tout en ne sachant pas bien les formuler. Ainsi, il y a sans doute un passage naturel entre le dessin de représentation et le dessin de projet.
Une voiture sur cale.
Imaginons tous les habitants d'un quartier en train de dessiner et ensuite d'examiner leurs dessins, forcément ratés, afin de s'entraîner à parler aux urbanistes. Revoir le dessin d'un lieu qui nous est à ce moment éloigné est un moyen d'y retourner. À ce moment, les déformations passent presque inaperçues. Elles nous y conduisent dans l'enthousiasme de la lecture qui rappelle les instants dans ce lieu, donc le lieu.
une voiture sur cale.
Le dessin, ça intéresse tout le monde. On a certainement envie de dessiner comme on a envie de danser ou de faire de la musique. Au plan d'Aou, quiconque voudrait entrer et sortir de chez lui en suivant des tracés le pourrait. Ici, suivre les marques du vieillissement, des ruptures, des défauts peut se faire aisément et sans discontinuer. Dans ce sens, le quartier est un grand dessin plutôt réussi.
Je laisse un peu de temps parce qu'il y a des détails.
Radio Tentation.
Radio Tentation, un plateau radio proposé par le Cosmos Collège et le Frac Paquin sur les ondes de la Grenouille. L'endroit, c'est ici, c'est la Gare Franche. Nous y sommes en public pour partager ce bon moment. Merci au public qui est venu nous y rejoindre. L'envers, c'est le paradis, qui, comme chacun sait, se situe entre Saint-Antoine et le plan d'Aou. Et le paradis, c'est aussi le titre du livre que Jean-Luc Brisson va faire paraître à la rentrée et dont il nous donne aujourd'hui un avant-goût à travers une installation que vous pouvez voir en contrebas. Et puis ce plateau radio. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour.
Autour de toi, sur ce plateau, Zora Adahatou et Soraya Saïd qui sont venues en voisine. Et puis Guéric Perret qui est urbaniste, paysagiste, qui dirige l'agence ILEX. Joël Ricordet qui est paysagiste lui aussi, enseignant à l'école du paysage de Marseille. Pascal Neveu qui est directeur du FRAC Paquin. Et puis Vladislav Snorko, directeur artistique du Cosmos Collège à la Gare Franche et qui est notre hôte ce soir. Sur ce plateau, il sera question de paysage, d'aménagement urbain, de cité, d'artistes et d'habitants et de jardins. Dessiner le paysage, un élément très classique de l'art pictural qu'on a presque pu penser désuet. Peut-être Pascal Neveu, vous êtes, je le rappelle, directeur du FRAC PACA, Fonds Régional d'Art Contemporain. Comment est-ce qu'aujourd'hui les artistes contemporains appréhendent le dessin du paysage, le regard sur le paysage, sans doute avec de nouvelles pratiques?
C'est une question bien vaste parce qu'il y a vraiment énormément d'attitudes d'artistes aujourd'hui à l'égard du paysage, des territoires et des façons de l'expérimenter et d'en rendre compte qui passent aussi bien par la marche, la promenade, le dessin, la peinture, la vidéo, la photographie. Enfin, tous les médiums sont convoqués pour essayer de rendre compte du paysage, mais c'est aussi une façon que les artistes ont aussi de rendre compte de la société dans laquelle on vit. Et le paysage est souvent le prétexte à toute une analyse politique, sociale, économique, architecturale d'un territoire. Et les formes artistiques sont là uniquement au service de la position de l'artiste et de sa position politique, en fait, quasiment.
Tout à l'heure, dans le sujet qu'on a entendu, Jean-Luc Brisson évoquait le dessin raté. Ceci dit, il en est un petit peu différemment lorsqu'on est aménageur urbain, lorsqu'on est architecte, lorsqu'on est paysagiste, parce que là, quand on a raté son dessin, on en prend pour 50 ans. Donc peut-être Guéric Perret ou Joël Ricordet, comment est-ce que vous percevez, vous, cette difficulté lorsque vous imaginez un projet de devoir livrer un dessin et puis de vous dire, là, il faut vraiment que je sois certain de moi parce que après, c'est quelque chose qui va s'inscrire dans une grande pérennité. Guéric Perret.
Je crois que c'est pas des choses comme ça aussi linéaires et aussi tranché. Je crois qu'un projet, c'est d'abord une attitude par rapport à la commande, à la contrainte, par rapport à ce qu'on peut percevoir du site. Et puis, c'est aussi une itération. C'est-à-dire qu'on commence, on amène une idée ou plusieurs idées, et puis on débat, on revient. Et progressivement, les choses ne se font jamais comme ça, de façon immédiate et définitive. Et je crois que encore moins en paysage. Peut-être que certains projets, concours d'architecture, bon, on décide d'une chose ou d'une autre, mais le paysage, je disais tout à l'heure, c'est un travail sur l'envers du décor, justement. C'est un travail sur ce qu'on appelle le vide, c'est-à-dire c'est sur l'espace à vivre, c'est le lieu de toutes les pratiques, c'est le lieu où tout se croise. Finalement, personne n'est d'accord, souvent. Et donc on peut pas le conceptualiser avec un dessin. Il faut d'avoir plusieurs dessins, il faut en général beaucoup de mois ou d'années.
Vous avez, je crois, à Marseille, notamment, travaillé sur l'aménagement des extérieurs de la gare Saint-Charles, sur l'aménagement de la Canebière, sur l'aménagement de la rue de la République. Autant de chantiers sur lesquels les moyens qui étaient déployés étaient importants. Comment imaginer faire travailler des paysagistes sur des cités ou sur des espaces de la ville qui sont beaucoup moins bien dotés?
Je veux dire, les opérations sur le centre-ville, c'est des opérations d'aménagement pur et simple. C'est-à-dire qu'il y a un relookage, il y a une mise à niveau, voire une mise en valeur des trottoirs, du mode de fonctionner. C'est-à-dire que sur la Canebière, par exemple, la circulation a été réduite au profit du tramway, etc. Ici, on est dans la complexité, puisqu'il n'y a pas d'ordre facilement discernable. Il n'y a pas une logique qui régit ces quartiers. Il y en a plein et c'est... Il y a d'abord une géographie, ensuite il y a un ordre architectural qui a subi un certain nombre d'agressions, d'oubli, et on a ces territoires vides. Donc là-dedans, en général, la première chose à faire, c'est d'essayer de reconceptualiser, de donner une identité à ces vides. À quoi, comment on peut transformer ce qui est aujourd'hui l'arrière des bâtiments ou des espaces purement fonctionnels en lieu de vie? Alors, nous, on travaille sur la commande, c'est-à-dire que notre boulot à travers cette commande-là, c'est d'essayer d'élargir et de passer à la notion de paysage, justement, c'est-à-dire franchir les limites du tableau et emmener vers cet avenir, cette ville de demain, parce que derrière, on trimballe une éthique, on a une envie qui est plus profonde et plus importante que ce que la commande nous donne. Et en général, les commandes sont faibles. Si on arrive à faire bien des petites choses et qu'on arrive à les reconceptualiser dans un ensemble assez vaste qui dépasse la copropriété ou le périmètre, eh ben, je pense qu'on peut entraîner derrière nous beaucoup d'enthousiasme de la part des maîtres d'ouvrage, de la part des populations qui sont en place parce que si elles comprennent, si on arrive à expliquer correctement, eh ben là, il y a une transformation. Et donc, ça, c'est du... je pense que c'est là l'intervention sur la ville de demain. C'est une intervention très concertée, quoi.
Alors, effectivement, c'est une opération très concertée, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord sur le fait que la concertation se passe de bonne manière. On a le plaisir d'accueillir sur ce plateau deux habitantes qui viennent de ce quartier. Peut-être Zora et Soraya, si vous voulez bien prendre un micro. Et est-ce que, dans le cas précis de la cité du Plan d'Ao, qui est en ce moment l'objet d'une restructuration, on y construit à côté une autre cité, on y construit un mur aussi pour séparer ces cités. Et ça a été fait avec un gros déficit de concertation. On ne vous a pas demandé votre avis.
Ben non, pas du tout. On ne nous a pas demandé notre avis. Et d'abord, ce mur, pour nous, ça représente le mur de Berlin. J'entends toujours dire que les habitants du Plan d'Ao sont des bêtes, sont des sauvages, on ne connaît rien du tout, on n'est pas instruit. Or que on ne nous concerte pas. Comment vous voulez qu'on s'exprime? Comment vous voulez qu'on donne notre avis? Alors que, voilà, tout est construit et on arrive, c'est déjà fait, on n'a plus rien à dire, quoi.
Ce mur, c'est le symbole de ce qui se passe sur la cité du Plan d'Ao. Au début, ils nous ont promis l'ouverture sur le quartier sera ouvert puisque sur tous les quartiers. Et là, ils ont séparé le monde des riches de l'autre côté et le monde, notre monde de l'intérieur. C'est le symbole de la fermeture. Au début, ils nous ont promis l'ouverture. Et ça, c'est tout un symbole.
Est-ce que, à défaut de vous avoir demandé votre avis avant de construire le mur, quelqu'un est venu pour vous expliquer après à quoi il servait?
Ni nous ont demandé ni l'avant, ni le après.
Peut-être Joël Ricordet, comment est-ce que vous percevez, vous, ce déficit de concertation?
Ce qui me frappe, c'est que quand on va sur le terrain et qu'on voit l'avancement du chantier, de cette... vous avez employé le mot de restructuration, je crois. Mais moi, pour moi, ce que je vois, ça réfère plus à l'univers de la rénovation urbaine des années 50. C'est-à-dire quand on rasait des quartiers dans les centres-villes pour construire de nouvelles habitations et que les gens partaient en banlieue, habiter dans les grands ensembles. Pour moi, c'est à peu près la même violence, alors que ça ne s'affiche pas du tout de cette manière-là. Ça s'affiche, on crée un nouveau paradis, puisque les nouveaux logements sont sans doute mieux que les anciens, à voir, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, c'est comme ça que ça s'affiche.
Le paradis, excusez-moi, avec l'espace, parce qu'on nous a promis l'espace vert, voilà. C'est le paradis avec l'espace pierre pour l'instant.
Oui, et il y a cette espèce de... c'est un travail univoque. Et donc, ces nouveaux aménagements, ils n'ont... Du coup, je pense que pour les gens qui habitent là, pour l'instant, ils n'ont pas de sens. Ils ne peuvent pas prendre de sens. Ils sont là, dans les airs. Peut-être un paradis demain, mais pour l'instant, c'est rien.
Et comment faire, une fois que ce mur est construit, une fois que le mal est fait, en quelque sorte, comment est-ce qu'on peut réparer ces plaies dans la ville?
C'est de détruire ce mur avec les habitants du plan d'arbre, parce qu'on n'a pas besoin de ce mur, quoi. On est pareil que les autres qui sont derrière ce mur. En fait, c'est de détruire ce mur.
C'est impressionnant et c'est... Et là, c'est un peu malheureux parce que maintenant, ça y est, on n'aura plus de vue pour nous. Voilà, on a cause du mur, du chantier, tout ce qui est... Parce qu'avant, on avait la vue, tu sais. C'est dommage pour nous. Et maintenant, c'est plus... Je ne sais pas comment vous dire, mais... Vous voulez rajouter, pas de problème, hein. Rajouter, ça ne fait pas de... Bon, c'est pas de mal, quoi. Mais... Je dis que maintenant, il n'y a plus de charme, il n'y a plus d'amitié dans cette vie. Il n'y a plus de... d'amis, il n'y a plus de... Ça y est, maintenant, c'est fini, quoi. Maintenant, c'est chacun pour soi.
Mais en même temps, il y a des gens du quartier qui m'ont dit que c'était le paradis ici. Ils n'avaient pas envie
ici,
de
c'était un bon quartier avant, il y a 20 ans en arrière. Ici, c'était bien, il y avait un château ici avant. Et c'était plus naturel, on avait la source. Et maintenant, il n'y a plus de source. Ils ont tout enlevé, le chantier, tout ce qui est... Ça y est. C'est devenu pollué maintenant, la vie. Maintenant.
Et une fois que le chantier sera fini, derrière le mur, qu'est-ce qu'il va y avoir en fait? Une résidence? Mais
ça va être une résidence pour les gens qui sont de l'extérieur en fait, pas d'ici. Voilà.
Une auto-tentation.
Une voiture sur cale. Mais quand je suis arrivé dans ce quartier, les voitures sur cale m'ont tellement impressionné, m'ont tellement fait rêver que j'ai voulu en construire une.
La voiture sur cale. Elle vole et ne roule plus. Elle cherche à s'élever. Mais son mouvement ascendant s'est interrompu en plein élan. Elle a pris racine, 4 racines d'un coup. 4 tiges, elle croît sur ces 4 tiges. Elle pousse de moins en moins jour après jour. Elle stagne et attend le déluge ou quoi? La voiture sur cale ne craint pas l'inondation. Elle sait qu'elle aurait pu finir dans un canal. La conduire est un jeu d'enfant pour qui ne veut pas aller loin ou bien un désir voyager par la pensée. C'est un tapis volant, une roulotte. Aujourd'hui, une poupée Barbie est au volant, bien enfoncée entre les deux sièges. Les roues peuvent servir à d'autres voitures, elles sont interchangeables. On peut remarquer que l'air comprimé dans les pneus est maintenant remplacé par de l'air libre sous elle. Libéré du devoir de sustentation de la voiture, soulagé par quatre parpaings, l'air traverse et se déploie sous elle. Sur son matelas d'air frais à l'ombre, la voiture sur cale pense à sa métamorphose en hydroglisseur. Pour parachever sa quête de légèreté et d'envol, toutes sortes de pièces disparaissent au fur et à mesure. La voiture s'allège, s'évapore au soleil. Elle pourrait tout aussi bien brûler pour intensifier le processus. La voiture brûlée est un poulet rôti sans le fumet du poulet rôti. Elle devient l'esquisse d'elle-même, au fusain, à la sanguine, au brou de noix. Quand la voiture surcale est calcinée, on se rend mieux compte que l'industrie automobile produit des sculptures. La masse en acier patiné, oxydé, similicortène, est montée sur un socle provisoire et suggère une programmation changeante. On pressent la vivacité du musée de plein air, du garage en plein air. Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir réparer sa voiture au pied de chez soi.
Ça devient un jouet, ça devient un objet presque métaphysique. C'est le voyage immobile, c'est... une espèce de... pas seulement de l'évaporation, il y avait de la condensation aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des roues qui revenaient, il y avait des pièces qui revenaient, etc. Puis parfois la voiture repartait. C'était une situation provisoire. C'est un mot que tu pourrais me proposer, provisoire, parce que c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. Et c'est finalement en relation avec paradis, bizarrement. C'est-à-dire que cet état bien réel de provisoire m'a permis de voir apparaître le paradis. Alors qu'en fait, le paradis, normalement, c'est quelque chose de plutôt définitif, de plutôt éternel. Et là, c'est cette espèce d'équilibre dans le provisoire entre le milieu naturel et puis les hommes qui habitent là, les hommes et les femmes qui habitent là, profitent du lieu et beaucoup des espaces extérieurs d'ailleurs. Il y a des garages, des cuisines, des chambres à coucher à l'extérieur. Hein. L'été, je ne suis pas le seul à faire la sieste dans le quartier. Toutes les voitures se réparent à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui prennent le thé dehors, qui se promènent, etc. Donc il y a une fréquentation de l'extérieur, comme dans un jardin. Hein. Sauf que ce ne serait pas choquant, par exemple, de réparer sa voiture dans son jardin. Ça me plaît beaucoup aussi.
Alors, je ne vais pas te proposer provisoire, un peu par esprit de contradiction. Par contre, je vais te proposer quelque chose qui est assez proche, finalement, évaporation.
Ah oui. Alors là, c'est tout un chapitre, parce que si tu me parles d'évaporation, c'est que tu sais que, sans doute, que la seule chose dont je me sois peut-être occupé de manière continue depuis... que je fais l'artiste, c'est bien ça, c'est bien l'évaporation. Et essayer d'y trouver un moteur dans l'évaporation. Et en même temps, j'avais oublié un petit peu l'évaporation en arrivant ici, puisque quand je suis arrivé à la Gare Franche en résidence, c'était une espèce d'envie de repartir avec des choses nouvelles. D'où peut-être aussi cette sensation de paradis, si tu veux. C'est que moi, j'étais disponible pour voir comme un premier matin, pour voir dans le plan d'Aou comme un lieu complètement neuf. Et du coup, l'évaporation, je l'avais un petit peu mise de côté, ainsi que les jardins. Et l'évaporation, si tu veux, quand je disais tout à l'heure que le paradis s'amenuisait, c'est pas du tout qu'il s'évapore, justement. Il s'en va pas par le haut, il s'en va pas petit à petit, il est grignoté. Il y a une espèce de mâchoire qui le resserre. Donc le quartier s'est pas évaporé, il s'est réduit, quoi. C'est vraiment la peau de chagrin.
Prenez une image, si vous voulez.
C'est à 2 euros, là.
Il est mort pas, lui ?
Non, non. Vous prenez 10. Faites ce que vous voulez avec les petits éléments. C'est bon pour les rhumatismes. Vous mettez ça autour du poignet. Alors, ça, c'est un petit éléments.
Là, non. Donc, au bout d'un moment, là... Au bout d'un moment, ça va être, ce verre va être en l'air. Et c'est juste pour montrer que l'évaporation est capable de créer des mouvements. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Ah,
un okay. Mouvement très très lent.
Oui. Automatiquement, ça va se consumer, voilà. En fait. Et ça va se...
Ça va pas vivre là.
Ouais, il va peser plus celui-là que celui-là parce qu'il va perdre de...
Voilà. Ah, okay. Et comme ça va aller à la vitesse de la croissance des plantes, comme les plantes poussent lentement, pareil.
Okay.
C'est ça qui m'intéresse. C'est comme un jardin, quoi. Ça pousse doucement.
Merci pour l'enseignement.
De l'autre côté, c'est aussi mieux parce que là, je vois un bonhomme et puis après, donc il y a plein de fleurs et des arbres. Et on voit bien donc une possibilité que les gens s'épanouissent. Hein. C'est vivre avec la nature, peut-être. Voilà. De l'autre côté, hein, ça me plaît. Ici, c'est un peu. Là, je vois donc il y a des petites bestioles, des chiens, même un loup qui est là. Et le chasseur de l'autre côté. Moi, je dirais plutôt. Oui.
La réalité au plein d'un. On est. on ne sait pas où on va, on est entre deux, on se balance, on est. C'est un quartier qu'il a pas trouvé sa place définitive, son image définitive, voilà.
D'accord. Tatoué.
On est balancé par tout le monde, par tous les politiques qui sont arrivés, par tout ça, là. J'ai l'impression que...
Moi, je voyais le tracteur avec le monsieur, le bonhomme, et puis après une dame donc, qui est assise. Mais en fait, la terre est en train de... d'être, comment on dit, peut-être à force de, je sais pas si c'est pas la force de l'eau ou une évaporation de quelque chose en fait, hein. Il reste plus rien, c'est le vide après.
Le FRAC PACA accueille jusqu'au 15 novembre une installation de Jean-Luc Brisson, intitulée « Le jardin est une chose mentale », un projet réalisé en partenariat avec la Gare Franche et le Cosmos Coleil. L'installation est composée de 33 bouts de monde flottants dans des récipients pleins d'eau. Elle est le fruit d'une rencontre entre l'artiste et les habitants de la cité du Plan Dao. Vlads Norko, directeur du Cosmos Collège.
Alors, le problème, nous nous retrouvons ici devant l'exposition Brisson. Le problème, c'est que, en voyant cette baignoire emplie de lentilles d'eau, c'est que je me suis fait propre pour venir au vernissage. Et tout à coup me vient ce mauvais souvenir qui va me faire cavaler d'ici 5 secondes, c'est que j'ai oublié de vider l'eau de ma propre baignoire.
Bon. Vlads Norko, comment tu l'as rencontré, Jean-Luc Brisson ?
Eh bien, de force. On me l'a collé devant moi, et puis tout de suite, ça a été quand même une amitié forcée aussi. On m'a dit « tu t'occupes de lui ». Donc, ce à quoi je me suis appliqué. Et vous savez, c'est comme des compagnons de cellule, on finit par s'y attacher. Non, Brisson, c'est les poètes fous qui osent faire ce que lui-même a fait, les jardins ratés par exemple, et qui tiennent compte de ces espaces dont je vous parlais, où l'herbe folle est considérée avec noblesse. En tout cas, je suis ébahi et lecteur de bande dessinée un petit peu devant ces icebergs flottants. On a l'impression qu'au gré de la petite brise, des histoires se déroulent devant nos yeux. Voilà.
Premièrement, ce n'était pas une étude. Deuxièmement, en plus, cette étude était inutile. Je m'entraînais à une série d'observations imprécises, fragmentaires, flottantes, toutes combinables entre elles. Elles devaient simplement manifester le bonheur d'être là, à observer. C'est au prix de 1000 bricolages avec la concordance des temps et de réajustements instantanés dans la correspondance des lieux que le rêve de la sieste pouvait sortir à l'air libre et persister dans la bouche de l'interlocuteur. À quoi servirait une description efficace, méthodique de ce que je voyais ? J'ai fait ce tour du jardin avec des invités, des amis, comme on va au jardin, quoi. Et la promenade se réorganisait autour d'événements minimes et s'achevait comme un ciel qui perd ses nuages.
Un jardin de ciel. Il n'est pas indispensable de travailler. L'ombre de la longue vue marquait les heures aux graduations des grosses pierres anti-intrusion. Il est possible de tourner d'un tour complet sur un pied et de se promener avec un verre d'eau à la main pour regarder à travers. Ce globe oculaire entièrement à l'extérieur du corps est très maniable. Cet instrument de vision est autant nécessaire que suffisant. Ce qui parvient au fond de l'œil met un temps infini à se classer dans la cervelle, car tout semble neuf. Sur la plateforme en demi-lune, on est entouré et domine un monde nouveau dans un matin qui n'en finit pas. Le paradis, en somme. C'est un bienfait que la disponibilité a envisagé ce quartier comme un jardin. L'état d'abandon dans lequel il a été maintenu a permis à la nature de se montrer assez librement. On peut s'abandonner. C'est simple de faire toujours le même trajet, qui trace mentalement des allées et évite certains massifs impénétrables ou bien des zones en friche comme les travaux. C'est naturel d'aller jusqu'au bout du jardin, toujours sur le même belvédère avec des invités, des amis. Ce trajet est parfois machinal, comme on va au jardin pour penser à autre chose, pour digérer. Ainsi, le jardin se développe, s'agrandit en s'augmentant de détails inconnus jusque-là, et la promenade se réorganise autour d'événements minimes et s'achève comme un ciel qui perd ses nuages. Le plan d'Aou est un jardin de ciel. Le ciel y croît, grimpe et se répand au sol. Il arrive de penser que dans cette garrigue bâtie, le ciel est un couvre-sol. Quelques endroits du plan d'Aou sont des jardins émouvants car improbables. ces jardins ténus et spontanés sont le contraire de jardins bien tenus. La différence dans l'accent aigu produit une sorte de courage, de témérité, que ces bouts de jardin puisent en eux et qu'on leur envie. Le plan d'Aou est clos assez naturellement par le relief ou les murs. Il est traversé et habité par une faune discrète d'insectes, de petits mammifères et d'oiseaux, tous surveillés par les goélands argentés. Certains êtres humains sont ici comme des hérissons. On ne les voit presque jamais. Un ermite, un peintre et d'autres génies habitent ce lieu. La vie, la mort, la sauvagerie y sont répandues. Il est possible que la sauvagerie soit l'une des composantes du paradis. On n'y rencontre que des gens respectueux ou indifférents qui n'ont pas à connaître le retrait et s'en soucient peu. Les paradis, même les plus ténus, les plus cachés, sont sans doute voués à être perdus. Heureusement qu'ils s'en créent, la plupart du temps par défaut ou involontairement, par négligence, dans les entre-deux.
Man, le 15 octobre 2009. Mon cher Xavier, je suis retourné cet été au plan d'Aou, en plein mois d'août. J'ai cru que le paradis était devenu l'enfer, une brûlure généralisée. Tu sais, du sec, de la matière lyophilisée en poudre, partout répandue, et aussi de nombreux départs de feu, notamment sur le belvédère où j'avais pris l'habitude, tu connais, de faire des siestes. C'était comme si l'on avait cherché à lutter contre le mal par le mal, ou bien voulu tout faire disparaître. J'avoue que je me suis demandé si derrière cela, il n'y avait pas un coup de pouce à la politique déterminée, on en a parlé, d'en finir avec cet état de paradis. Ce paradis où les habitations émergent incontinent du sauvage de la colline. Et je m'étais trompé. À la première pluie, le paradis était revenu. L'eau avait pu jouer dans la perméabilité du lieu pour sortir le sol de sa réserve naturelle et le reverdir, le refleurir. Les départs de feu n'étaient que le fruit d'une autre composante importante de ce lieu, la permissivité. Le fruit, dans ce cas précis des incendies, est un peu talé, voire pourri, je te l'accorde. La permissivité date des années 80-90, où l'on a abandonné le quartier à lui-même. L'argent fait le bonheur, le film de Robert Guédiguian, qui est une fiction, le montre très bien, presque comme un documentaire. D'ailleurs, après avoir vu ce film, je me suis rendu compte que de nombreuses anecdotes ou descriptions du quartier d'avant, que l'on m'a racontées, sont en réalité des épisodes vécus par des personnages du film. Ce mélange de vrais souvenirs mêlés à la fiction est très émouvant. Il en est peut-être partout et toujours de même. Mais là, au plan d'Aou, ce mélange est tellement visible. Le film raconte comment les habitants se prennent en charge eux-mêmes, sans attendre d'aide extérieure. Je pense qu'il préparait le terrain à une expérience alternative d'aménagement, ou du moins qu'il aurait pu préparer le terrain. Le plan d'Aou, perméable et permissif, aurait permis l'expérimentation d'un jardinage, même assez vague et organisé sur place par les habitants, de plus en plus demandeurs d'ailleurs. On devrait apprendre à jardiner, à aménager un espace public en jouant avec la nature, toujours prête à fournir des plantes adaptées et robustes, puisque spontanées. Ce jardinage un peu flou s'accommoderait très bien des saccages ordinaires et ne pourrait évoluer que vers du mieux, du plus riche, du plus varié. Il s'agit de donner à la ville des parties de sauvage, non pas préservées ou conservées, mais toujours prête à apparaître, à réapparaître. Je te fais toutes mes amitiés, Xavier. À bientôt.
Vous écoutiez « Rien n'est permis, tout est possible ». Rétrospective de la résidence de Jean-Luc Brisson à la Gare Franche, à l'invitation du FRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Cosmos Coleil à la Gare Franche. Les entretiens, reportages, extraits d'émissions de radio ont été enregistrés entre novembre 2008 et novembre 2009. Les textes, extraits du « Paradis » de Jean-Luc Brisson, est élu par Florence Mazur. Réalisation, Xavier Thomas, Radio Grenouille.